L'anagramme, c'est quoi?
C'est la mise en évidence de 9 choses que les uns et les autres, inconsciemment, on évite cette chose-là. Et parce qu'on évite cette chose-là, inconsciemment, ça donne tout un comportement, toute une façon d'être. Alors pourquoi 9, pourquoi pas 10, pourquoi pas 8, pourquoi pas... ça s'explique, mais je ne l'expliquerai pas aujourd'hui. Donc au sein de la communauté humaine, par rapport à l'approche de l'énagramme, il y a 9 choses différentes qu'on peut éviter à tout prix, qui vont faire 9 familles de personnes qui ont des comportements, dans certains moments, qui se ressemblent. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une boîte. Ça veut dire que peut-être vous avez un des deux pieds qui traîne le bout de l'orteil dans une boîte. Et que peut-être en vous rendant compte que vous avez cet orteil-là, vous allez pouvoir apprendre à le sortir de la boîte, être encore plus libre, encore plus vous-même. C'est toute l'approche qu'on peut faire de l'énéagramme dans un cadre de développement personnel. Vous allez pouvoir avoir ça. Alors on évite à tout prix quelque chose. Il y a 9 choses. Il est évident que quand on est dans une des familles, ou quand on fonctionne selon les croyances qui correspondent à une des familles, des 9 familles, entre la peste et le choléra, je vais toujours choisir la peste. Ou je vais toujours choisir le choléra. Vous en avez qui évitent à tout prix le conflit. On va les voir. En toute situation. Et il y en a d'autres qui évitent à tout prix la faiblesse. Quelle que soit la situation. Et les uns et les autres, celui qui évite à tout prix le conflit, s'il faut, il va se montrer faible. Celui qui évite à tout prix la faiblesse, s'il faut, il va aller au conflit. Et ainsi de suite. Donc le grand principe de fonctionnement de ça, c'est l'évitement. Alors, ça se construit, hein, mais... Et tout ça, on l'a placé dans un beau dessin, à 9 points, parce qu'énéagramme, ça veut dire... Énéa, en grec, qui veut dire 9, et gramme, ça veut dire dessin. Et on a tout, placé tout ça dans un dessin, c'est pas innocent, dans un dessin bien particulier, parce qu'on va voir que les différents points, qui correspondent à différentes façons d'être, ont des choses à se dire entre eux. Les différents, on l'a ici profil, pour faire simple, on leur a donné des numéros. Alors je propose de regarder un petit peu plus près ces 9 profils, et ça va vous parler. Je pense que vous risquez de reconnaître des gens de votre entourage que vous connaissez. Le profil 1, ce sont ces personnes qui évitent à tout prix de faire des erreurs. Quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, surtout pas d'erreur. Et alors, pas d'erreur, la plus grosse des erreurs étant de se mettre en colère. Sachant que, bien évidemment, quand quelque chose n'est pas fait comme ça devrait être fait, hein? Mais bon, si je me mets en colère, je fais une erreur. J'ai pas le droit. Enfin, je sais pas qui c'est qui m'a mis cette plante là. Comme ça. Déjà. Voilà. Bon. Voilà. C'est toutes ces personnes-là qui sont dans une espèce de bouillonnement intérieur, finalement. Sont beaucoup dans le faire, c'est des personnes qui font, vous êtes avec eux, et puis il y a quelque chose à faire, c'est pas forcément leur rôle, hein. Et puis vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire, vous ne réfléchissez pas trop longtemps, parce qu'ils vont se lever de la chaise, ils vont le faire, à votre place. C'est parce que, voilà, ça déborde à l'intérieur, quoi. Il faut y aller, il faut le faire. Donc toutes ces personnes un petit peu perfectionnistes, avec tous les tenants et les aboutissants que ça peut avoir derrière, et qui, finalement, en toute situation, vont être un peu pilotées par ça. Et ce mécanisme-là, finalement, à chaque fois qu'elle est dans ce mécanisme de faire attention à ce qui ne va pas, d'être bouillonnante comme ça, etc., c'est un petit peu comme si, face à la vie, elle avait son joli jeu de cartes, et puis que face à la situation... Réfléchis pas, elle joue toujours la même vieille carte usée. C'est dommage. On va voir, c'est dommage pour les 9, hein. J'en parle là parce que c'est le premier. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience, peut-être que certains ici fonctionnent comme ça, prendre conscience que
face à une situation, il y a peut-être d'autres réactions, il y a peut-être 8 autres réactions possibles. Et petit à petit, dans un cadre de développement personnel, arriver à prendre de la distance par rapport à ça et être capable de jouer les 9 cartes dans toute situation. Profil numéro 2, c'est différent. Ils sont tous différents. C'est des personnes qui n'ont besoin de rien. Je vais éviter à tout prix de reconnaître que moi, j'ai besoin de quelque chose. Et ça va me permettre d'être à bon service. Genre, vous êtes à une conférence, et puis vous avez quelqu'un qui fonctionne sur ce profil-là, et puis il y a une petite table avec des verres et du jus de fruits, et pendant que je parle, la personne est en train de vous servir du jus de fruits. C'est... Derrière, ce qui se cache, c'est des personnes qui donnent. Mais pour recevoir. Comme si l'amour est un commerce. C'est une croyance. Une fausse croyance qui se travaille. Mais au départ, le mécanisme, c'est celui-là. C'est-à-dire, je te donne. Puis si ça ne revient pas, au bout d'un moment, vous avez la phrase inratable, avec tout ce que j'ai fait pour eux. C'est terrible. Ça peut être des... Ça peut donner à certains niveaux des gens comme Mère Teresa. Ça peut être très positif. Chacun des fonctionnements ici peut être pris positivement, si on sait prendre de la distance par rapport à ces mécanismes, on peut être pris à un sens très dégradé, on dira désintégré dans le vocabulaire de l'énagramme, quand finalement, ça finit par être la personne qui se met à revendiquer un retour pour ce qu'elle fait, qui se met à devenir vengeuse parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, etc., etc. Donc, ici, on va avoir toute cette famille de personnes qui vont éviter leurs propres besoins. Moi, j'ai besoin de rien. Et donc, comme j'ai besoin de rien, ben, je suis au service des autres. Le troisième, qu'est-ce qu'il va éviter? C'est simple. Hein. L'échec. Surtout pas l'échec. C'est le gagneur. Il s'agit de gagner, il s'agit de réussir. Il s'agit de briller, et tellement surtout pas d'échec, quitte à la limite, des fois, à mentir un petit peu, transformer la vérité, c'est pas grave, du moment qu'il n'y a pas d'échec franc et massif. C'est des personnes qui sont toujours en représentation, des personnes qui sont acteurs de leur vie, des personnes souvent très sociables et qui vont vous vendre quoi? Qui vont vous vendre eux. Ils se vendent en permanence. Marketing de sa propre personne. C'est des très bons commerciaux. Ce qui nous amène à un autre profil, qui est le quatrième. Alors lui, ce qu'il évite, c'est la banalité. Il cherche à exister. Pour exister, il faut qu'il soit pas comme les autres. L'artiste. Et c'est pas forcément exister gaiement, d'ailleurs. Ça peut être exister gaiement, ça peut être exister dans la nostalgie, ça peut être exister dans les idées noires. Vous savez, cette BD de Franken, il y a le nom avec un nuage noir qui se balade au-dessus de la tête, ça peut être ça. Mais c'est pas comme les autres. Alors, ça donne beaucoup d'artistes, mais pas que des artistes. Ça peut être... Très large tout ça. Hein. Tous les artistes ne sont pas là. Mais c'est quand même une bonne niche. Alors ensuite, il y a un autre là, 5. C'est un autre monde. C'est tellement un autre monde d'ailleurs qu'il n'est pas dans le monde. Ce qu'il cherche, va chercher à éviter à tout prix, c'est l'envahissement. On va trouver d'autres choses qui l'évitent à tout prix, mais ça, c'est un bon résumé. C'est-à-dire, ne faites pas le siège de ma tour d'ivoire. Je suis en dehors du monde. je l'observe, je cherche à l'expliquer, donc ce sont des gens qui vont analyser, qui vont chercher à analyser, à comprendre le monde, comment ça marche, etc., mais sans jamais y être. Donc tant qu'ils expliquent, ils ne s'impliquent pas. J'explique, mais je ne m'implique pas. Donc voilà, vous avez toute cette famille de d'observateurs, détachés, en dehors, plutôt discrets, plutôt à pas émettre trop longtemps avec les autres parce que ça leur pompe leur énergie, aimant être un peu solitaire la plupart du temps, mais pas toujours, aimant en tout cas se ressourcer dans la solitude, dans l'analyse, très dans la tête, mais pas là. Ça vous parle aussi, peut-être. On a vu des comme ça. Et c'est pas parce qu'ils vous font la gueule, hein. C'est pas parce qu'ils sont timides, c'est parce qu'ils ont besoin de ce recul pour expliquer le monde. Parce qu'ils pourront y aller, ils pourront s'impliquer quand ils auront fini de l'expliquer. Et quand ils seront sûrs qu'il n'y a pas de danger, que tout est clair, que tout est net, ok, c'est bon, je pourrais y aller. Mais bon, ça risque de leur prendre pas mal de temps. Alors, évidemment, hein, chacun des mécanismes ici, il y a un moyen d'en sortir. Il y a un moyen de sortir de ça. C'est ça qui fait aussi la force de toute l'approche Ennéagramme. C'est que ça donne des outils pour apprendre à jouer tout le jeu de cartes là qu'on peut avoir. Alors, le 6, là, ce qu'il évite à tout prix, alors le mot consacré, c'est le mot déviance, mais je vais vous le faire en périphrase, c'est se faire éjecter du groupe. La déviance, c'est faire quelque chose qui n'est pas dans les normes acceptées du groupe. Et du coup, eh ben, coup de pied derrière, on n'est plus dedans. Parce que la pire des peurs de ceux qui sont là-dedans, c'est de se retrouver seul, parce que tout seul, ils sont persuadés qu'ils ne vont pas pouvoir s'en sortir, et qu'ils ont besoin de s'adosser à un groupe, pour qu'ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est des personnes qui sont dans le doute, permanent, que c'est toutes ces personnes qui sont pilotées par la peur. La peur est très forte. Les chiens qui sont un peu beaucoup dans leur tête quand même, mais peur, doute, c'est toujours là. Et c'est déjà imprévisible. Parce que comme ils doutent tout le temps, ils sont jamais sûrs, au dernier moment, ils vont peut-être décider autre chose. Et c'est même encore mieux que ça, c'est que face à la peur, ils ont un mécanisme très particulier qui va être soit ben, « j'ai peur et je me cache », soit face à la peur, j'attaque. Face au danger, t'es mérité, je pense que ça va être la première. Mais il y a cette capacité-là, tout d'un coup, à fou, complètement basculer, aller dans... Et ça les rend assez illisibles. C'est les personnes qui ont le plus de mal à se reconnaître à l'intérieur du système, parce que, en plus, non seulement il y a le doute, mais en plus, elles voudraient être partout. Parce que si je suis pas quelque part, est-ce que quelque part, je risque pas de me faire éjecter? Est-ce que je suis pas déviant ou déviante en n'étant pas quelque part? Donc ça leur rend la tâche un peu plus difficile que pour d'autres. Vous avez cela. Vous avez ensuite ceci qui vont éviter à tout prix. Il y en a deux. La souffrance. Ou si vous voulez, à un autre niveau, plus soft, qui vont éviter à tout prix les contraintes. Parce que toute contrainte est une source de souffrance potentielle. Certaines terminologies les ont appelées les épicuriens. On aime bien ce... les trucs où on s'amuse bien, où il y a du plaisir à prendre, où... Bon, quand ça commence à devenir un petit peu ennuyeux, ben ils sont déjà plus là. Ils vont faire une soirée avec vous, et puis quand la soirée est finie, vous allez vous coucher, ils vont en faire une autre. Ils sont en recherche d'adrénaline permanente, et ça peut donner... Alors ça peut donner des personnalités instables, on pourrait penser, mais ça peut aussi donner des personnalités très stables. Et puis si on veut continuer le tour d'horizon,
le suivant, mais on en parlait tout à l'heure, c'est celui-là qui va éviter à tout prix d'affaiblir.
Quand on évite à tout prix la faiblesse,
en général, ça donne des personnes qui ont un tempérament assez leader. Parce que être commandé par quelqu'un, potentiellement, ça me met en position de second. Donc c'est moi qui dois être le chef. Ça peut donner une tendance à voir les choses un petit peu en noir et blanc. Vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, c'est la guerre. Et puis, c'est moi qui vais gagner. Parce que c'est moi qui vais être fort. Si vous êtes avec moi, si vous êtes moins fort que moi, ça va, je vais vous prendre sous mon aile, je vais vous protéger. Mais alors, il va falloir être loyal et fiable. Parce que si vous me trahissez, ça va pas du tout. C'est comme ça. Si vous me trahissez, vous appuyez là où ça fait mal, il s'est montré faible. Donc il va pas aimer. C'est des personnalités très instinctives, très, c'est des volcans, hein, plein d'énergie, qui soulèvent des montagnes. Ça donne de grands leaders qui peuvent faire des grandes choses, ou des moins grandes choses, alors, en fonction des opinions politiques des uns et des autres. Et puis notre dernier profil ici, ben, c'est lui-là. C'est notre diplomate médiateur qui va éviter à tout prix le conflit. Surtout pas de vagues, surtout pas de conflits. On doit pouvoir s'entendre, mais pas de vagues. Donc ça vous donne des personnes qui sont assez fusionnelles en général, qui sont faciles à vivre, qui savent pas ce qu'elles veulent, parce que savoir ce que je veux, c'est me poser et c'est potentiellement créer du conflit avec l'autre qui voudra autre chose. Et qui vous diront jamais non. Mais c'est pas parce qu'elles vous ont dit oui qu'elles vont le faire. Et puis c'est des personnes qui ont du mal à faire des choix. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais ils savent ce qu'ils veulent pas. Donc vous avez ces personnes-là qui vivent le conflit. Donc vous voyez, au travers de ce schéma-là, on se retrouve avec 9 moteurs de motivation différents sous-jacents qui sont inconscient pour la personne, la plupart du temps. C'est là qu'on en est esclave, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est pris là-dedans. Donc, s'en rendre compte, c'est déjà une première étape. Donc, vous avez ces 9 façons qui sont toutes différentes, et je suis prêt à parier que vous avez eu l'image en tête de quelqu'un que vous connaissiez sur chacun des 9. Et ce que l'énéagramme étudie, c'est ça. C'est d'abord pourquoi il n'y en a que 9, comment ça se fabrique, et à travers comment ça se fabrique, on accède à toute la subtilité qu'il y a derrière, hein, parce que là, je vous donnais vraiment qu'une vulgarisation rapide. Et déjà, en soi, ce serait super chouette. Sauf que l'énéagramme, c'est aussi énéagramme, le dessin. Et le dessin nous apporte beaucoup plus que ça. Il nous apporte une notion de dynamique entre les profils, de choses qui se passent quand on est sous stress, quand on n'est pas sous stress. Les traits que je vous ai dessinés, en fait, c'est des flèches. Là, à l'intérieur, voilà, il y a des petites flèches avec un sens et pas un autre. Et ce que nous disent, je ne me trompe pas, voilà, ce que nous disent ces flèches, c'est que c'est un peu comme un courant qui nous emporte. Quelqu'un qui vit à tout prix la faiblesse et qui se retrouve submergé par la situation, sous fort stress et qui n'arrive pas à gérer la situation, il va rester quelqu'un qui vit sa faiblesse, il ne va pas se transformer d'un coup. Mais il va en plus aller chercher les caractéristiques négatives du point qui est le long de la flèche, qui est celui-là. Traduit en français clair, ça veut dire quoi ? Notre leader, quand il va mal, il va s'isoler, il va se refermer sur lui-même complètement, se mettre à ressembler à ce qu'on voit d'habitude ici. Voilà. Lui, quand il va vraiment mal, il va se mettre à ressembler à celui-là. C'est-à-dire, il va se mettre à papillonner. Lui qui voulait analyser les choses dans le détail, aller au fond, etc., il va se mettre à tout survoler, à rien finir,
qui sont les caractéristiques négatives de l'art. Il a aussi des caractéristiques positives, là. Ça, il ne le prend pas, ce serait pas drôle. Il prend que le négatif. Donc, et ainsi de suite. Et dans le sens inverse des flèches, ça fait le contraire. C'est-à-dire que quand ça va vraiment bien, et que c'est en super forme, eh bien on va chercher les caractéristiques positives en amont. C'est-à-dire notre perfectionniste, quand ça va vraiment bien, il va savoir s'amuser et prendre la vie du bon côté. Notre épicurien, quand ça va vraiment bien, il va savoir aller au fond des choses. Donc voilà, ça décrit un petit peu le système de première passe rapide. Donc voilà, ce système-là, de par ce qu'il apporte, il est très intéressant pour plein d'applications. Il est intéressant, bien sûr, pour la découverte de soi, parce qu'on va apprendre à travers ce système ce qui relève de qui on est vraiment, et ce qui relève de choses qui sont en pilote automatique. Et on a peut-être envie à certains moments d'avoir le pilote automatique, mais à d'autres moments, peut-être qu'il nous empoisonne à la vie. Ce qui aide bien, c'est pas forcément de le jeter, le pilote automatique. Il est là pour quelque chose, mais c'est de reprendre le contrôle, de savoir quand est-ce qu'on le branche, quand est-ce qu'on le branche pas. Ça peut être intéressant en termes de développement personnel, de travail sur soi. Dans le cadre de l'interaction avec les autres, ça aide à mieux comprendre pourquoi les autres ils font ce qu'ils font. Et il y a tout un tas d'applications, parce que chaque profil, c'est pas les mêmes mots que vous allez dire pour... Il y a des mots qui stressent. Parler de... aller voir quelqu'un qui est là-dedans, qui est dans éviter les erreurs, aller lui dire devant du monde, ça va pas ce que t'as fait. C'est pas à faire. Alors qu'il y en a d'autres, ils n'ont rien à faire. Mais là, c'est pas à faire, etc., etc. Il y a toute une logique qui peut se décliner là-dessus, sur la communication aux autres. De fait, on apprend que le monde est plus riche que notre seule vision du monde. Ça ouvre à de la tolérance, tout un tas de choses comme ça. C'est un outil intéressant aussi en entreprise. Moi, j'utilise en entreprise parce que quand on a une équipe, on a des gens qui sont répartis sur les profils. Et à travers ça, on peut voir ce qui se passe et ce qui se joue à notre niveau que juste ce sur quoi on travaille. Un niveau plus psychologique. Là, c'est intéressant aussi. Moi, j'écris des romans. Je me prive pas quand je travaille sur la psychologie des personnages d'utiliser ça. Ça donne au personnage plus de consistance. Donc c'est en tant que clé de compréhension d'une des couches du fonctionnement humain, les applications sont très 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 vastes. C'est vrai que là, on a fait de la caricature, on est allé plutôt dans le négatif, parce que c'est là qu'on voit mieux. Mais il va être porteur de rigueur, il va être porteur de valeur. Tout ce que ça peut avoir de positif, d'avoir des valeurs, d'avoir ces choses-là. Le 2, il va être porteur d'aide aux autres, d'amour, de toutes ces choses-là. Le 3, il va être porteur de tout ce qui est faire arriver les choses. Vous lui donnez un projet à faire, il le fait. Il va au bout. C'est un faiseur. C'est super moteur. Le 4, c'est tout le sens du beau. Tout ce qui rend beau le monde. Le 5, c'est la connaissance. C'est être capable de démonter un mécanisme et de donner une explication aux choses. Le 6, c'est la capacité à organiser, à prévoir, à créer l'unité du groupe. Forcément, je cherche ce que le groupe se unit. Le 7, parce qu'on s'amuse un petit peu, quoi, quand même. Le 8, à être un leader, à diriger, à mener les autres, à avoir toute cette énergie-là. Et le 9, c'est lui qui va pacifier, qui va être le médiateur, le diplomate, qui va apporter toutes ces valeurs-là.